Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons décortiquer la coexistence d'une montée en puissance macroéconomique et d'une stagnation sociale profonde de la RDC. Comment un pays ose célébrer une croissance record tout en restant le champion de la pauvreté?
Dans cet épisode, on vous propose une plongée sans concession dans les entrailles économiques de la RDC, entre chiffres flatteurs du FMI et réalité sociale brutale. Nous allons faire une sorte de relecture de la tribune de Jo Sekimonyo, chancelier de l'université Lumumba, économiste politique hétérodoxe, intitulée « RDC, entre chiffres du FMI et vécu congolais, le paradoxe du capitalisme extraverti ».
Deux notions essentielles, extraversion économique, c'est comme jouer au foot à domicile mais envoyer tous les buts marqués dans le camp adverse, et capitalisme extraverti, cette machine qui pompe la richesse locale pour l'exporter sans retour.
Trois actes. On expose le paradoxe, on démonte les mécanismes, puis on repense les alternatives crédibles pour l'avenir. Prêt à remettre en question ce que tout le monde croit savoir sur l'économie congolaise.
On entend partout, la RDC souffre d'une économie extravertie. Mais que cache vraiment cette formule? L'extraversion, c'est simplement orienter la production vers l'exportation en s'insérant dans les chaînes de valeur mondiales. Un peu comme si le pays produisait pour le marché international au lieu de son propre marché. Dans le débat congolais, on cite souvent ce terme comme si c'était une fatalité.
Certains pays, la Corée du Sud ou la Chine par exemple, ont fait de leur ouverture un vrai moteur de développement. Alors pourquoi la RDC n'obtient-elle pas le même résultat?
La clé, c'est la stratégie d'accumulation, transformer la monnaie forte générée à l'export en investissements locaux, comme on dépense ses gains au casino pour acheter la maison du quartier. Mais en RDC, cette dynamique est absente.
C'est pas tant l'ouverture qui pose problème, mais la perte de contrôle sur les règles du jeu. Tout dépend de qui décide, qui capte et qui réinvestit la valeur créée. C'est là que commence le vrai débat. Et vous allez voir, tout bascule avec le capitalisme extraverti.
Le vrai défi, c'est le capitalisme extraverti. Imaginez une usine sur le sol congolais, mais dont les profits, les décisions et même les emplois qualifiés filent à l'étranger. Voilà le cœur du mécanisme. Production locale, accumulation externe.
On parle ici de l'investissement direct étranger et de chaînes de valeur globale. Les capitaux arrivent, mais instaurent des enclaves tournées vers l'export, déconnectées de l'économie nationale. Le capitalisme extraverti, c'est quand toute la chaîne de l'investissement à la commercialisation est pilotée de l'extérieur. Imaginez une mine où l'or extrait file directement à l'étranger, alors que le village voisin manque d'eau potable.
Mais l'IDE n'apporte-t-il pas des emplois et du savoir-faire? Parfois oui, mais souvent il impose ses propres règles, verrouille la diffusion de la richesse. Le capital étranger devient chef d'orchestre sans la partition locale. Ici, deux concepts, chaîne de valeur internationale, le parcours d'un produit de la mine au consommateur mondial, et enclave productive, zone minière isolée de l'économie nationale.
On applaudit des chiffres de croissance, mais la richesse produite ne circule pas dans la société. Vous vous dites, est-ce inévitable? Non. Car d'autres pays ont su transformer l'extraversion en véritable levier de puissance. En RDC, c'est l'absence de contrôle sur le capital qui crée la dépendance. Voilà la racine de notre paradoxe.
Selon le FMI, la RDC est sur le point de dépasser l'Éthiopie en PIB nominal. Un triomphe sur le papier, mais derrière le chiffre, quelle réalité sociale? Le PIB, c'est comme le chiffre d'affaires d'une entreprise. Mais si tout est redistribué aux actionnaires étrangers, que reste-t-il pour les salariés sur place?
Certains y voient le signe d'un décollage économique, dopé par la demande mondiale en minerais stratégiques. Mais la vraie question, cette croissance bénéficie-t-elle à la population?
Vu de la diaspora ou lors d'un passage temporaire au pays ou les clics de ceux qui sont parmi les 14% qui dépassent les 3 dollars par jour, on applaudit facilement les performances affichées, parfois même avec enthousiasme. Mais pour ceux qui vivent durablement en RDC, la majorité, l'ambiance est moins festive. Ce contraste entre richesse célébrée et réalité vécue prête presque à sourire si ses conséquences n'étaient pas aussi sérieuses.
Mais en vrai, le PIB monte, mais l'ascenseur social reste bloqué au rez-de-chaussée. Voilà le cœur de notre mirage.
Regardons les données. En RDC, la pauvreté touche environ 4,25% de la population contre 39% en Éthiopie. Pourtant, les deux pays présentent un niveau de capital humain relativement comparable, selon la Banque mondiale.
Autrement dit, ce n'est pas seulement une question de ressources humaines. Le problème est ailleurs. Il se situe dans la manière dont l'économie transforme ou ne transforme pas ce potentiel.
Regardons maintenant les inégalités. Le coefficient de Gini mesure la concentration des richesses. Plus il est élevé, plus l'argent reste entre peu de mains. La RDC se situe entre 42 et 44, contre 35 à 37 pour l'Éthiopie.
Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Que la croissance existe, mais qu'elle profite à une minorité. Imaginez une rivière d'or, mais canalisée vers un seul robinet.
Un autre indicateur confirme cette réalité, l'indice de complexité économique. Il révèle une structure productive très peu diversifiée en RDC, largement dominée par les matières premières. À l'inverse, l'Éthiopie amorce une dynamique de diversification.
Et cette différence est cruciale. Car sans diversification, il n'y a ni apprentissage, ni innovation, ni montée en gamme. L'économie reste figée dans des activités à faible valeur ajoutée.
Ajoutons à cela un taux d'électrification inférieur à 20% contre plus de 50% pour l'Éthiopie. La RDC reste dans l'obscurité, littéralement et figurativement freinant toute industrialisation. L'Éthiopie a financé et construit un des plus grands barrages électriques au monde pour soutenir sa transformation, tandis que le projet Grand Tinga en RDC peine à se concrétiser depuis des décennies. Difficile de parler d'industrialisation ou d'opportunités économiques dans ces conditions.
En somme, un PIB qui grimpe sans transformation structurelle, c'est comme repeindre la façade d'une maison dont les fondations restent fragiles. Autrement dit, le PIB monte, mais l'ascenseur social reste bloqué au rez-de-chaussée. Voilà le cœur de notre mirage.
Du côté de la souveraineté monétaire, une autre tension apparaît. La croissance de la RDC reste profondément branchée sur le système dollar.
Exportation, investissement, flux financiers, tout transite par cette devise. Et pourtant, l'État affiche une ambition claire, retrouver une autonomie monétaire.
Cette contradiction révèle une fragilité structurelle. D'ailleurs, des institutions comme Fitch pointent déjà des perspectives plus incertaines. Révision à la baisse de la croissance, pression inflationniste, une équation périlleuse.
Alors pourquoi ne pas sortir du dollar et miser entièrement sur le franc congolais? La question est légitime. Mais elle est aussi risquée.
João Sequimonio alerte que sans base productive solide et sans capacité d'absorption interne, une sortie brutale du dollar peut provoquer fuite des capitaux et instabilité macroéconomique.
Retenez deux concepts clés. La dédollarisation, c'est changer les rails d'un train en pleine vitesse. Et la capacité d'absorption, c'est la capacité d'un système à intégrer ces changements sans basculer dans le chaos.
Une transition mal pensée, dictée par des impératifs politiques ou une souveraineté mal calibrée, risque d'aggraver la précarité. À l'inverse, comme le souligne João Sequimonio, une stratégie crédible doit être graduelle et structurée, en commençant par la dédollarisation du secteur public afin de restaurer la confiance dans la monnaie nationale et d'ancrer progressivement les usages.
Car au fond, la souveraineté monétaire ne se décrète pas. Elle se construit. C'est comme un pont. Sans pilier solide, il s'effondre. Et toute la question est là. Comment passer d'une croissance dictée de l'extérieur à une dynamique économique réellement ancrée localement?
Que nous enseignent le Nigeria, la Chine et la notion de rationalité productive? Deux trajectoires extraverties, oui, mais pilotées de l'intérieur.
Prenons le Nigeria. Avec la raffinerie du milliardaire nigérian Dangote, le pays a engagé un basculement stratégique. D'importateur de produits raffinés, il devient progressivement exportateur de produits finis.
Pendant des années, le Nigeria exportait du pétrole brut tout en important des produits raffinés dans un système largement soutenu et subventionné par l'État. Une contradiction structurelle.
La raffinerie Dangote a inversé cette logique. Elle a transformé une contrainte en levier et surtout, elle répond à un problème central, l'insécurité énergétique, afin de rendre l'économie nigériane plus efficiente et plus productive.
Mais au-delà du pétrole, c'est une leçon de méthode. Une véritable rationalité de transformation consiste à partir d'un déséquilibre interne pour reconfigurer toute la chaîne de valeur.
Regardons maintenant la Chine. Elle ne s'est pas contentée d'imiter. Elle a anticipé les mutations, notamment dans les véhicules électriques, pour dépasser les limites d'un modèle fondé sur les énergies fossiles.
Dans les deux cas, l'extraversion n'a pas été subie. Elle a été maîtrisée, orientée, subordonnée à une stratégie nationale. Le capital étranger n'a pas dicté les règles, il a été intégré dans un projet.
La leçon est claire. L'extraversion de l'économie peut être un levier. Le capital étranger peut être mobilisé, mais à une condition. Il doit être orienté, structuré et encadré. Ouvrir une économie ne suffit pas. La vraie réussite, c'est lorsque l'ouverture sert une stratégie nationale et non l'inverse.
Alors, que retenir de ce grand plongeon dans le paradoxe congolais? D'abord, la croissance du PIB ne vaut rien sans diffusion de la richesse. Ensuite, la dépendance au capital étranger n'est pas une fatalité, mais exige une stratégie d'endogénéisation. Enfin, la transition monétaire ne doit pas précéder la consolidation productive.
On est tous invités à rester vigilants face aux choix monétaires. Il faut repenser le rôle de l'État comme architecte des chaînes de valeur locales et comme chef d'orchestre du capital, pas comme spectateur du boom minier. Exiger des politiques qui conditionnent l'investissement étranger à la création de valeur locale et soutenir l'État pour qu'il reprenne la main sur les choix stratégiques. Oser questionner, oser proposer.
La question de la faisabilité dans le contexte actuel mérite d'être posée. Le défi est réel, mais c'est une condition sine qua non pour sortir du cycle d'extraction et de dépendance. Comme le rappelle Sekimonio dans ses tribunes, cela exige une vision stratégique, une cohérence institutionnelle et une capacité à inscrire l'action publique dans la durée.
Vous vous sentez interpellé? Partagez cet épisode, débattez, proposez et surtout gardez l'œil critique, car la transformation ne viendra pas d'en haut, mais du débat citoyen. À très bientôt pour de nouvelles analyses sans concession.